chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Qu'est dit la loi à propos de l'extorsion des signatures? Vous savez, une personne peut être forcée par son employeur ou par une tierce personne de signer une déclaration ou un document dont les contenus peut lui causer préjudice. D'après les juristes, il s'agit là d'une extorsion des signatures. Quelles sont les dispositions légales lorsqu'on est en face d'un cas d'extorsion des signatures? Jean Kéba est avocat après la cour d'appel de Matadi. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, ou nous définir clairement comment la loi congolaise définit l'extorsion des signatures?
Ok, merci Loli, bonjour à tous les auditeurs. Je crois que la disposition de l'article 84 du Code pénal congolais livre 2e prévoit et punit ce qu'on appelle l'infraction d'extorsion. Extorsion d'une manière générale, mais parmi les éléments, il est prévu aussi l'extorsion des signatures, qui est le fait d'obtenir ou de forcer une personne à pouvoir à poser sa signature ou son paraphe sur un document, cela à l'aide de la violence ou de la menace et encore ou par ruse. Donc la loi prévoit que tout celui qui aurait été contraint à pouvoir apposer sa signature sans pouvoir s'exprimer librement sera puni d'une servitude pénale qui varie entre 5 et 20 ans de servitude pénale.
D'accord. Alors, d'accord. Maître Jean Kéba, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de la vie de tous les jours qui illustrent bien cette infraction d'extorsion des signatures?
Oui, je parle de l'exemple qui avait été donné par notre auditeur de Kananga le lundi passé. Il a parlé de son frère qui était travailleur dans une pharmacie. Mmh. Et à l'issue d'un manquant, avait été contraint à pouvoir signer par son patron une décharge reconnaissant la perte de 3 000 $ qui avait été constatée. Ça, c'est un exemple qui avait été donné, que tous les auditeurs avaient suivi. Il y a plusieurs autres exemples que nous pouvons voir. Souvent avec les OPJ, quelqu'un peut être débiteur d'une tierce personne sans qu'il y ait une décharge signée entre les deux,
oui,
ou un élément. Mais en cas de conflit, lorsque l'autre est en difficulté de pouvoir apporter la preuve, souvent certains recourent aux OPJ qui contraignent le débiteur à pouvoir prendre un engagement écrit et signé sans que celui-ci puisse le faire librement. Ça peut même aussi se faire au niveau de parquet où certaines personnes sont soit sous le coup de menaces d'arrestation ou de mise en détention,
oui,
à pouvoir signer un document juste pour s'engager à faire quelque chose ou prendre l'engagement de ne pas faire ce que l'autre partie veut obtenir d'elle. Donc il y a beaucoup d'exemples au niveau des services de sécurité, ou même au niveau des travailleurs. Il y a de plus en plus des employeurs qui, voulant mettre fin au contrat de travail, et pour éviter de pouvoir payer tous les droits payés par la loi aux travailleurs, s'évertuent à pouvoir contraindre les travailleurs à signer ce qu'ils appellent les transactions, c'est-à-dire un document qu'il a lui-même préparé et qui déclare que les parties s'accordent à mettre fin au contrat, et s'abstiennent de pouvoir engager des actions judiciaires sur un litige. Le travailleur étant en position de faiblesse, souvent est averti, si tu ne signes pas, on te vire sans préavis, sans décompte final, et quelqu'un dans cette condition est appelé à pouvoir signer, malgré lui, sans pouvoir connaître ce à quoi il s'engage, sans avoir le temps de le lire clairement, se faire conseiller ou signer utilement. Donc toute signature ou paraphe un document qui est obtenu dans ces conditions, c'est-à-dire par contrainte, par violence ou par menace de violence, tombe dans le champ de cette infraction qui est l'extorsion, dont ici l'extorsion de signatures.
Voilà, ce sont là quelques exemples de cette infraction, l'extorsion des signatures. Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, est-ce qu'on peut dire, généralement, ceux qui arrivent à contraindre les autres à signer, c'est des personnes qui ont, on peut dire en quelque sorte, une certaine ascendance, une parcelle de pouvoir?
Bon, pas forcément une ascendance. Oui, la personne peut avoir l'ascendance sur la victime qui est appelée à pouvoir avoir sa signature, mais généralement, il faut qu'il y ait des menaces. Il peut s'agir des menaces ou des violences physiques ou morales. Et la personne ne signe pas en toute liberté et en connaissance des causes. Il signe parce qu'il y a un fait extérieur qui pèse sur lui, qui le contraint à pouvoir signer, soit qu'il a peur ou il craint un mal qui lui est promis par l'auteur de l'extorsion, ou parce qu'il est tabassé ou torturé, et pour se soustraire de cette violence, il dit autant signer.
Alors, Jean Keba, oui.
Par violence, et on est dans le cas de ce qu'on appelle l'extorsion de signature.
Alors, après avoir signé un document qui peut se retourner contre vous, alors comment prouver au juge que j'ai signé ces documents par contrainte?
Bon, il n'y a pas un moyen de preuve précis, mais c'est que la personne qui estime qu'elle avait été victime de l'extorsion de signature, qui n'a pas signé librement par le libre consentement, est appelé à faire recours à toute voie pour pouvoir apporter la preuve. Si par exemple il y avait des témoins qui étaient là, il peut recourir au témoignage comme moyen de preuve. Ou s'il y a des documents contraires ou un enregistrement de son qui peut reprendre les menaces qui pesaient sur lui lors de la signature, il peut l'apporter comme moyen de preuve. Donc il n'y a pas un moyen de preuve spécifique recommandé par la loi. Donc la personne peut recourir à toute voie pour pouvoir prouver que son consentement avait été arraché par contrainte ou par violence. Et il n'y a pas un moyen spécifique prévu par la loi. C'est tous les moyens de preuve à la disposition, tous les moyens de preuve plutôt à disposition de la victime qui peuvent être présentés devant le juge ou devant le parquet pour dénoncer ce fait.
Nous avons deux auditeurs en ligne, Doudou Kadima de Mbujima et Malonga de Bernoudville. Nous parlons de l'extorsion des signatures, qu'est dit la loi congolaise. Vous voulez participer à composer le 081-890-6394.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net, à votre service.
Qu'est dit la loi congolaise à propos de l'extorsion des signatures? Doudou Kadima, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Doudou.
En fait, j'aimerais dire ceci à l'invité. Si un travailleur est obligé de mettre son signature dans un document sans son consentement, c'est peut-être pas crainte de ne pas perdre son boulot. Parce que dans plusieurs entreprises, vous allez vous rendre compte que la plupart des chefs des bureaux ou des employeurs sont trop exigeants. Donc, Paul, il est chef, il peut peut-être vous dire de signer un document, il peut peut-être vous contraindre. Maintenant, j'aimerais poser ma question. Bon, maintenant, j'aimerais dire ceci à l'invité. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Bon, maintenant, j'aimerais poser ma question à l'invité de savoir. Si un tel travailleur se sent lésé du fait qu'il a été obligé de mettre sa signature dans un document par son employeur. Maintenant, s'il veut aller porter plainte à la justice, quelles sont les procédures à suivre? Voilà d'abord ma première question. Et puis, cette plainte aura pour quel objectif? Pourquoi? Parce que dans plusieurs entreprises, surtout ici en Afrique, dès que vous saisissez votre employeur à la justice, même si on tranche les dossiers à votre faveur, vous ne pouvez jamais retrouver votre travail, malgré les résultats du procès. Donc, si vous saisissez votre chef à la justice, vous perdez directement votre boulot. Maintenant, que dit la loi congolaise à propos de ça? Est-ce que la justice peut donc poursuivre un tel employeur qui ne veut pas le retour de son employé au sein de l'entreprise parce qu'il a été saisi à la justice? L'employeur D'accord. doit comprendre que...
D'accord, merci Doudou, on a compris. Malunga, vous êtes à Bandonville, bonjour.
Bonjour, MRV à tout le monde là-bas.
Quelle est votre question, Malunga?
Bon, ma question est celle-ci. Ce que nous vivons souvent, vous voyez, à notre Assemblée nationale, il y a la loi votée. Et il y a aussi il y a une motion qui a été émise par un élu comme ça. On les exige de signer et d'adopter cela. Et puis on signe. Si, une fois, celui qui a signé, il se retrouve par après que non, en tout cas, ce que j'ai signé, en tout cas, ce n'est pas valable. Alors, je vais retirer ma signature. Est-ce que ce retrait-là sera adopté ou bien sera refusé par la justice? Parce que si je signe à une chose que je ne comprendrai pas convenablement, oui, ça peut être valable. Mais finalement, si je comprends que, oh, j'ai fait, j'ai été vraiment manipulé, alors même j'ai signé, je ne suis pas d'accord. Est-ce que la justice peut m'accorder ou bien peut me condamner?
D'accord, merci. Maître Jean Keba, vous avez suivi les deux auditeurs. Doudou des Mbujimaï dit ceci, quelle est la procédure à suivre pour saisir la justice en cas d'extorsion des signatures?
Ok, merci. Bonjour Doudou, merci pour la question. Pour ce qui est de la procédure, la victime a deux possibilités. Et je crois que la question portée par Jolly, il nous aide. C'est relative aux moyens de preuve. Si la victime a tous les moyens pour pouvoir prouver devant le juge directement qu'il avait été victime de l'extorsion de signatures ou de paraphes, il peut directement, par ce qu'on appelle citation directe, saisir le tribunal de grande instance pour que ce gouvernement puisse statuer sur ce fait et contacter l'auteur de l'extorsion de signature et éventuellement le dédommager. Et deuxième, vous demandez quel sera l'objectif de pareille plainte. D'abord pour la procédure, autre, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir démontrer vous-même devant le juge, vous pouvez commencer par déposer une plainte au niveau du parquet de grande instance, du lieu où les faits ont été commis, ou du lieu où la personne qui vous a contraint à signer habite. Et le parquet, avec le pouvoir que la loi lui accorde, peut faire d'investigation, c'est-à-dire mener une enquête afin de réunir tous les éléments de preuve qui attestent que la signature apposée par vous sur le document ou le paraphe avait été obtenue par menace ou par violence, donc elle n'était pas librement apposée. Et en ce cas, si le parquet estime que tous les éléments sont réunis et qu'il a identifié les moyens de preuve, et le parquet saisira le tribunal et vous pouvez vous constituer partie civile pour pouvoir revendiquer vos intérêts civils ou réparations par rapport à cette infraction.
Voilà. Et Doudou nous dit que si vous assignez, par exemple, votre employeur en justice, même si à la justice on tranche le problème en votre faveur, vous risquez toujours de perdre votre travail.
Comme c'est-à-dire l'émission passée, le contrat de le travail est protégé par la loi. On n'y met pas fin de n'importe quelle manière. Il faut qu'il y ait des raisons valables pour mettre fin à un contrat de travail. Mais se plaindre parce que l'employeur vous a contraint son travailleur à pouvoir signer un document qu'il n'aurait pas dû signer librement, n'est pas un motif de résiliation du contrat de travail. S'il agit ainsi, vous serez appelé à saisir l'infraction du travail pour rupture abusive du contrat de travail.
Que dit la loi à propos de l'extension des signatures? Avant de répondre à la question des Malunga, nous allons accueillir Esokowa Dekindu dans la province du Maniema. Esokowa, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour aussi à l'invité. Bon début de la semaine.
Merci, quelle est votre question Esokowa?
Ok, moi je devrais d'abord poser la question à l'invité, parce que selon la loi, quelqu'un qui est allé plaidoyer ou plaider devant la justice entre l'accusé et le plaignant. Je pense que selon la loi, le plaignant a 20% donc des raisons. Bon, il y a un problème dans ma maison, donc le plaignant est allé à la justice. Après avoir allé à la justice, j'étais allé compte tenu d'un problème qui s'est passé dans ma maison. Mais quand le juge a parlé de faire un jugement, mais il m'a forcé encore de signer, alors que c'est moi qui avais raison. Bon, je ne sais pas, moi j'ai refusé de signer, mais le juge m'a forcé de signer. Mais au moment où je me suis donné de signer la signature, il m'a condamné. Donc, d'avoir donné 50 000 francs comme frais de participation et de chèque devant le jugement. Bon, je voulais poser à l'invité, quand on force quelqu'un pour une signature qui n'est pas vraiment de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire de là? C'est ça la question que je voulais poser à l'invité. Merci.
Bien. Revenons d'abord à la question de Malunga de Bandundouville qui a posé la question de savoir si un député, par exemple, décide de retirer sa signature sur une pétition. Voilà, comment est-ce qu'il peut procéder? Comment est-ce qu'il peut faire cela pour le retrait de sa signature? Peut-être qu'il a été, il n'a pas eu de bonnes informations avant de s'engager. Jean Keba.
Ok, merci. Bonjour, Malunga. J'ai bien compris votre question. Je crois qu'elle est inspirée par les pratiques récentes au milieu de nos assemblées, où certains députés, après avoir signé en faveur d'une motion de méfiance, se rétractent pour pouvoir dire que non, je viens retirer ma signature. Je pense que bon. C'est une pratique qui est malheureuse, puisque à ce niveau-là de fonction, un député sérieux ne peut pas aller signer un document qu'il ne comprend pas. Mais la question qui nous préoccupe ici, nous parlons de l'extorsion des signatures. Si le député avait été contraint soit par son chef du parti ou leur chef de file ou du groupe parlementaire à signer, soit au risque d'être exclu du parti ou de perdre le mandat ou d'une autre contrainte ou danger à subir pour nos signatures.
Oui.
À ce moment-là, il peut se dire avoir été victime de l'extorsion des signatures et il a le droit, comme tout citoyen, de pouvoir dénoncer ce fait, soit devant le parquet ou devant le tribunal, pour pouvoir obtenir condamnation de l'auteur de menaces, donc de l'extorsion de la signature. Mais s'il a signé librement et qu'il décide aussi de retirer librement sa signature, là, ça ne rentre pas dans le champ de ce que nous sommes en train de parler, puisqu'il n'y a aucune contrainte qui avait pesé sur lui et qui avait déterminé sa signature.
Voilà. Bien, donc il n'y avait aucune contrainte pour signer la motion. Passons à la question des Sokowa, des Kindu, qui dit les juges l'ont forcé à signer un document et ensuite les juges l'ont condamné alors que c'est lui, il était le plaignant dans une affaire qui ne nous a pas révélé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour entrer dans ses droits?
Je pense que la démarche est la même. Même devant la justice, il s'agit devant l'OPJ, le magistrat instructeur du parquet ou encore devant le tribunal, aucun justiciable ne peut être contraint à signer un document, un procès verbal ou n'importe quel document devant toutes les autorités judiciaires. Et même tous ceux qui sont auditionnés, ils ont le droit de pouvoir lire les déclarations actées par le magistrat. Et s'ils trouvent que cela ne reflète pas leur volonté, ils sont libres de pouvoir ne pas signer. Mais si vous signez parce qu'on vous a contraint de le faire, soit par torture, soit par menace de condamnation, vous avez le droit de pouvoir demander, si ce sont des PV, leur annulation, et de poser aussi plainte contre le magistrat qui vous a contraint à le faire. Car nul n'est au-dessus de la loi.
Bien. Soupi Nyembo nous appelle des Kalima. Bonjour Soupi.
Bonjour, je dis bonjour à notre invité. Je voulais demander une telle question-là différente parce que j'ai la peur là-dedans, tu vois, les sujets. Quelqu'un, par exemple, qui a un crédit de 1000 dollars, il a rédigé un document, connaît tout ça et d'autres détails, mais si on commence à arriver maintenant au bureau de la police, il nie, non, j'avais seulement 100 dollars. J'avais la peur parce que ce monsieur était connu, il avait appelé beaucoup de personnes, tout ça. Il commence à faire la colonie. Bon, comment est-ce que la justice peut connaître cette situation-là? Voilà un peu à cette position que je voulais demander.
Voilà, quelqu'un qui s'engage, qui signe un document, il accepte de prendre 1000 dollars de crédit et après la personne renie, n'accepte plus et elle affirme qu'elle a été forcée à signer les documents. À ce moment-là, qu'est-ce que la loi prévoit pour ce genre de cas?
Tout à fait, j'ai dit.
Bon, si la personne, au moment de la signature, n'était pas victime d'une contrainte ou d'une menace qu'il avait déterminé à signer, et il ne peut pas, plus tard, au moment de payer dire que non, je ne paye pas parce que j'étais contraint. Je crois que le vraiment déterminé est que la personne puisse démontrer que la signature qu'il a posée sur ce document était arrachée contre sa volonté, qu'il était contraint de le faire. Mais s'il a signé sans résistance, sans discussion, en connaissance de cause, il ne sera pas fondé à pouvoir renier sa signature sous prétexte qu'il ne s'est engagé malencontreusement. Je crois que l'élément déterminé, c'est de savoir est-ce que la signature est libre et éclairée ou elle est signée par la force et l'arrachée contre la volonté de la personne qui la pose.
Voilà. Revenons par exemple au cas des OPJ. Il y a un problème, on vous amène devant l'OPJ à la police, il vous interroge, il rédige son procès verbal et il vous demande de signer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit, il vous force à signer à ce moment-là, il vous force de signer les documents. Que faire à ce moment-là?
Je crois que la procédure est la même. Si il vous force de le faire, vous avez le droit de pouvoir dénoncer ce fait-là devant le parquet ou l'auditorat militaire selon le cas, et l'OPJ sera appelé à pouvoir venir s'expliquer. Mais s'il est démontré que la signature avait été arrachée par la force, ou vous dire avait été déformé, il vous a contraint de signer parce qu'il voulait satisfaire l'autre partie, votre adversaire, dont le parquet ouvrira des poursuites contre lui, et le document pourra être annulé. Puisque les procès-verbaux ont une force probante, ce qui fait que tous ceux qui sont contenus sont censés être vrais et authentiques. Mais si la partie estime que ce qui a été dit a été déformé, et que c'est par contrainte qu'elle était appelée à le signer, et à ce moment-là, elle est appelée à pouvoir se plaindre contre l'OPJ, dont le poursuivre, et demander aussi l'annulation de ce document.
Voilà. Alors, quelles sont les sanctions prévues par la loi lorsqu'on est devant une situation d'extorsion des signatures?
Oui, l'article 84 du Code pénal congolais, livre 2e, a prévu la peine de servitude pénale allant de 5 à 20 ans et une amende qui peut être portée à 2000 francs.
De 5 à 20 ans.
Oui, 5 à 20 ans. Ce qui fait maintenant que si on doit aller au tribunal, c'est le juge, effectivement, des grandes instances qu'il faudra saisir, car c'est lui qui est compétent de pouvoir connaître les faits dont la peine varie entre 5 et 20 ans.
Voilà, la peine varie entre 5 à 20 ans, mais la grande difficulté, peut-être, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est comment arriver à réunir des preuves suffisantes. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut recourir aux témoins, mais s'il n'y avait pas des témoins tout autour, c'était entre deux personnes. Comment prouver cela devant le juge?
Oui, c'est ça le plus grand problème de tout celui qui va saisir la justice. Puisque, étant ici en matière répressive, l'auteur présumé, la personne que vous accusez d'extorsion,
est toujours présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Donc, c'est vous qui avez la charge de preuve. Donc, il devait démontrer que voilà, il l'a fait soit pour avoir un film, si jamais il y avait un caméra caché quelque part qui a filmé la scène, ou si vous avez le son de ces menaces, tu appelles sur téléphone, si tu ne signes pas ce document-là, voilà, et que tu as enregistré, c'est un moyen de preuve. Ou s'il y avait des personnes qui étaient au courant de ce fait, qui connaissaient votre refus de pouvoir le signer, et qui peuvent venir témoigner en votre faveur, mais si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir apporter la preuve, hélas, vous serez en difficulté. Et par rapport aussi, au-delà de la peine qui est prévue, si il est déterminé, il est prouvé que l'extorsion est consommée, vous avez aussi le droit de pouvoir demander réparation, c'est-à-dire obtenir des dommages et intérêts par le tribunal.
Bien, merci Jean Keba. Je rappelle que vous êtes avocat près la cour d'appel de Matadi. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et de répondre aux préoccupations des auditeurs. Bonne journée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée et à la prochaine.
Ok, merci Oli. Bonne journée à tous les auditeurs. Merci.